Bien, j'invite le docteur Philippe Goudal, madame Catherine Masson, le docteur Agathe Perroni à nous rejoindre après que Luce Legendre ait pris la parole pour nous parler de certains services qui ne pratiquent ni contention ni isolement. Alors évidemment la question c'est comment font-ils, à quelles conditions et surtout avec quelles conséquences. Alors comme les autres, ben, ils devront respecter un timing, mais enfin je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils ont bien compris depuis ce matin que c'était au maximum... un certain nombre de minutes. Je n'ai pas le calculé, je vous dirai ça dans un instant. Luce.
Oui, j'en ai pour 30 secondes. Alors, pour vous expliquer un petit peu notre démarche, on a voulu mettre un peu en écho des pratiques françaises avec des pratiques de pays étrangers. Donc, grâce à l'ACOFALP et à son président qui montera sur le plateau tout à l'heure, également avec l'aide précieuse du docteur Velasco, nous avons... un certain nombre de témoignages de psychiatres étrangers que l'on diffusera au cours de la journée. Donc tout de suite après la présentation de l'équipe du docteur Marcel, nous aurons trois présentations, Israël, l'Angleterre et l'Italie. Ces trois présentations sont en anglais. Donc nous en avons fait une traduction qui normalement est dans vos pochettes. Si vous ne l'avez pas dans vos pochettes, Pauline... tiens à votre disposition, vous pouvez un peu lever la main et pendant que nous diffuserons le premier film, elle vous communiquera le document. Alors, vous nous pardonnerez à l'avance, certains films ne sont pas de bonne facture, mais on a utilisé les moyens du bord pour certains témoignages, notamment celui de l'Angleterre qui est vraiment, vous verrez... un peu désagréable à regarder, mais enfin, les propos sont très audibles et de toute façon, vous en avez la traduction. Voilà. Alors, avant de vous laisser, je voudrais excuser la présence du docteur Marcel. Donc, il est au congrès franco-cubain de psychiatrie. Donc, il rentre demain en France. Mais nous l'avons filmé. Donc, vous allez assister au film et de toute façon, son équipe... est présente et répondra pendant une dizaine de minutes aux questions. Et je voudrais également remercier l'aide de la directrice que je cherche des yeux, de la directrice de la communication du GHT, Florence Patnaud, qui nous a beaucoup aidés, son service audiovisuel, Pierre Oliac et Monsieur Doublé, j'oublie son prénom, et également Virginie Ottaviani. Merci.
Bien, je vous présente donc nos invités, Madame Masson, Catherine Masson, qui est cadre de pôle au centre d'accueil de crise Ginette Amado à Sainte-Anne, le docteur Philippe Goudal, qui lui est praticien hospitalier à cet endroit-là. Vous n'êtes pas à Sainte-Anne, madame ?
Non, cadre supérieur, mais du secteur 3.
Ah, du secteur 3, pas seulement. D'accord. Et le docteur Agathe Perroni à mes côtés, qui est praticien hospitalier à Sainte-Anne. Avant votre intervention, un petit film, c'est ça ? Ou un grand film, plus précisément ? De quoi s'agit-il ?
C'est l'interview du...
Je vais le passer, il dure 19 minutes.
Oui. C'est une interview ?
Oui. L'interview du docteur Marcel.
Très bien.
Bonjour docteur Marcel, vous êtes chef de pôle du 5e et 6e arrondissement de Paris. J'étais venue vous voir il y a déjà 3 ans pour évoquer avec vous la question de l'isolement et de la contention. Vous m'aviez déjà à l'époque dit que dans votre service, il n'y avait pas de contention, il n'y avait pas d'isolement.
Très peu.
Très peu. Aujourd'hui, je vous reposais la question, mais vous ne trouvez pas que c'est un petit peu provocateur de dire que dans un service, il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de contention, ou très peu même.
Alors, ça peut paraître provocateur, mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que discuter de la contention et de l'isolement, c'est très vite polémique. On a tendance à opposer l'angélisme au réalisme, comme si d'abord on n'avait pas les mêmes patients et on ne s'adressait pas à la même pathologie, et surtout comme si finalement ceux qui attachaient étaient réalistes et ceux qui n'attachent pas ou très peu sont angéliques. Et pourtant, quand on réfléchit un peu, on s'aperçoit que la contention et l'isolement, ça varie d'un hôpital à un autre. Au sein d'un même hôpital, ça varie d'un service à un autre. Et au sein d'un même service, ça varie d'un praticien hospitalier à un autre. Alors, il faut quand même qu'on arrive à expliquer pourquoi. Moi, je ne vois que comme explication que ça dépend du facteur humain, parce que je pense que selon sa propre histoire, on réagit plus ou moins différemment face à des situations violentes. Ça dépend aussi de l'histoire de chacun des services, et ça c'est vraiment très important. Et donc je crois que ce sont les deux facteurs les plus importants en ce qui concerne, pour expliquer à mon avis, cette disparité au sein même de différents hôpitaux.
Alors, un facteur humain, mais bon, derrière, il faut m'expliquer un petit peu ce qui se passe pour que vous m'en disiez plus, parce que c'est une exception beaucoup trop large pour qu'on comprenne pourquoi on arrive dans certains services à quasiment éradiquer la contention et l'isolement.
Ben, si vous voulez, je pense que là, ça dépend un petit peu de l'organisation des soins, de l'organisation de... de l'organisation des soins dans son service et de l'idéologie que l'on peut avoir.
Vous parlez d'idéologie, mais c'est peut-être pour cela que les psychiatres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, pensez-vous qu'une loi a été nécessaire pour aborder cet épineux problème ?
Ben écoutez, oui, je pense que la loi, elle était nécessaire. Elle a eu au moins le mérite de parler de la contention, de l'isolement. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais depuis que cette loi est parue, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de rencontres. Je crois que tout ça, c'est très positif, puisque ça permet peut-être de discuter de nos pratiques, d'améliorer éventuellement l'organisation de nos soins et la qualité des prises en charge et des soins qu'on peut dispenser auprès de nos patients.
Alors donc, cette nouvelle loi, elle vous convient ? Vous pensez que
oui.
elle est d'une portée suffisante pour pouvoir évoquer ce sujet et en discuter des pratiques dans les établissements et tendre vers une diminution du recours à la contention et à l'isolement?
Oui, je pense qu'elle est, en tout cas pour moi, elle est très importante, c'est un progrès quand même, parce que dans cette loi, il est clairement dit que la contention et l'isolement, ce ne sont plus des prescriptions médicales, mais des décisions, qu'on n'est plus dans le domaine du soin, mais dans le domaine de la privation de liberté. Elle prévoit également un registre de contention, c'est de nouveau très réglementé, ce qui est, bon, ce qui est une très bonne chose. Hein.
Alors, je me souviens très bien que ce ne sont pas les mots que vous aviez employés lorsque je vous ai vu il y a 3 ans, mais...
La loi n'existait pas encore.
La loi n'existait pas, mais l'idée existait déjà, et vous étiez tout à fait clair par rapport à ça. On n'est pas dans le soin, hein, lorsque on est amené à...
C'est une privation de liberté.
Exactement, exactement. Alors, du coup, pourriez-vous expliquer comment vous pratiquez dans votre service avec les professionnels de santé, avec votre équipe médicale, pour que justement ça ait une certaine réalité?
Alors, si vous voulez, il faut que je vous parle un peu de l'organisation générale du service, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, avec l'organisation que nous avons mis en place, la contention et l'isolement, c'était exceptionnel. Alors, on a, si vous voulez, les 2/3 de nos moyens qui sont en dehors de l'hôpital. À l'hôpital, il n'y a que l'unité d'hospitalisation de 26 lits avec une unité à temps partiel, j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Et à l'extérieur, on a des structures de soins très diversifiées, parmi lesquelles nous avons un centre d'accueil et de crise. Cette petite unité qui, en fait, existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui s'appelle le centre d'accueil et de crise Ginette Amado, a été créé par Ginette Amado à la fin de l'année 1980. Et cette unité accueille les urgences 24 heures sur 24 et dispose de quelques lits de crise. Alors, je crois que c'est vraiment très important parce que ça ça nous permet d'hospitaliser moins et de recevoir toutes les urgences, toutes les décisions d'hospitalisation sont prises à partir du centre d'accueil et de crise, à de rares exceptions près. Il n'y a aucun moyen de contention et d'isolement dans ce centre qui reçoit donc toutes les urgences avec tout ce qu'il peut y avoir de cortège, de symptômes, d'agitation, violence. Je ne sais pas si souvent que ça. Alors, on a effectivement, si on a créé ce centre d'accueil et de crise, c'est parce qu'on a développé une notion qui est quand même très importante, qui est la notion d'accueil. Dans notre service, on a développé cette notion d'accueil, on a développé aussi la notion d'ouverture. Et donc, si vous voulez, cette notion d'accueil, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un patient, sa famille et une équipe soignante. À partir de cette rencontre, à partir de la qualité de la relation qui va pouvoir s'établir, il va être proposé aux différents intéressés différents modes de prise en charge. À chaque fois, elles associent la famille, elles associent le patient. Et parmi ces prises en charge, vous avez la prise en charge dans un des lits de crise du centre d'accueil. Ça peut être une prise en charge à temps partiel, ça peut être un retour à domicile avec une consultation dès le lendemain, et puis ça peut être aussi une hospitalisation. Et cette hospitalisation, elle est préparée, c'est, si vous voulez, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas d'indication d'accueil ni d'admission au centre de crise, il n'y a que des indications d'hospitalisation. Et que ces indications d'hospitalisation ne sont plus les mêmes que celles qu'il peut y avoir dans d'autres services. Ce qui fait que ça a des répercussions très importantes sur l'intra-hospitalier. Les patients sont de nouveau accueillis dans cet hôpital. On essaie de leur expliquer comment on fonctionne. Puis surtout, ils sont accueillis dans un service qui est entièrement ouvert. Il n'y a pas de porte fermée. On n'aime pas trop les portes fermées au secteur 3. Donc, ça change radicalement les choses. Et là, le patient, on l'explique aussi à la famille, hein, parce que souvent les familles disent, voilà, mais il va fuguer, ça va être une catastrophe. Eh bien non. On n'a pas plus de fugue que les autres secteurs. Donc, voilà, on s'en occupe, on prend en charge les patients, on les accompagne. Et si vous voulez, dans ce service qui est donc 26 lits, il y a également une unité de temps partiel qui comprend 14 ou 15 places et qui est un véritable prolongement de la prise en charge temps plein à l'hôpital. C'est au même étage, vous avez des tas de communications entre ces deux unités, et à ces deux unités s'ajoute une troisième qui est vraiment aussi fondamentale, qui est un centre d'activité thérapeutique, et qui est ouvert pour les patients qui sont en intra-hospitalier, comme pour ceux qui viennent en temps partiel, qui rentrent chez eux le soir et qui reviennent dans la journée. Ces patients ne sont pas, si vous voulez, c'est pas un hôpital de jour, ce sont des patients qui ne sont pas encore stabilisés, mais qui n'ont plus besoin d'être dans un lit. Et à titre anecdotique, il n'est pas rare de voir un patient qui est en temps plein, qui est arrivé depuis quelques jours, de poser la question qui est de savoir quand est-ce qu'il va passer à temps partiel. Vous voyez, il y a une notion d'ouverture, une notion de c'est assez dynamique.
Alors, lorsqu'un patient se présente extrêmement agité, comment ça se passe? Est-ce que les personnels sont favorables à la pratique de ne pas contentionner, ne pas mettre en isolement, parce que j'imagine que votre équipe, elle est comme les autres équipes, elle a parfois certaines craintes d'avoir un accident de travail, de recevoir des coups.
Oui, bien sûr.
Comment est-ce que vous faites?
Bien sûr. Alors d'abord, hein, on n'a pas de... Je ne pense pas que... Enfin, j'en suis même sûr, on n'a pas plus d'accidents de travail que dans les autres secteurs. Ça, c'est certain. Plutôt même moins. On a aussi un turnover de notre personnel qui est inférieur à ceux des autres secteurs. Mais vous savez, la contention et l'isolement, ce ne sont pas des... Comment dirais-je, ce n'est pas thérapeutique au sens où on l'entend. Ce qui est thérapeutique, c'est une contenance qui est effectuée par l'équipe soignante avec un accompagnement, une disponibilité et une personnalisation des soins et de la relation. Vous savez, il y a les médicaments, c'est une chose, et nos patients sont traités, mais vous avez aussi la relation que vous pouvez établir avec eux. Et la relation, c'est un des rares outils techniques dont disposent les infirmiers. Donc c'est très important, cette prise en charge qui peut être très étroite, c'est un véritable accompagnement permanent, et qui peut, si on devait faire un parallèle, c'est un soin intensif.
Et alors pour un patient qui n'est pas dangereux pour les autres, mais qui est possiblement dangereux pour lui-même, est-ce que votre réponse est la même ?
Oui, la réponse est la même, il est surveillé, il est accompagné, et c'est vrai que, si vous voulez, on surveille comme le lait sur le feu.
Vous me disiez que votre équipe était très stable. Il y avait un turnover,
ce qui est très important.
Un taux de mobilité moins important que dans d'autres équipes. Lorsque vous recrutez des professionnels, est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils sont formés de manière spécifique?
Bien sûr, ils sont formés. On a des formations qu'on met en place dans le service pour les nouveaux arrivants. Donc ils sont formés à notre façon de travailler. On rappelle aussi l'histoire de ce service, parce que ce service a une histoire. Et puis, il y a d'autres formations aussi qui sont dispensées dans le service. Il y a aussi beaucoup de réunions. Je pense qu'on a des réunions institutionnelles relativement fréquentes, relativement importantes, où chacun peut s'exprimer. Vous avez le compagnonnage des infirmières entre eux. Et dans ces réunions, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire ce qu'il pense, tout le monde peut penser les soins, tout le monde peut nous faire réfléchir et adapter un petit peu nos réponses aux difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'on rencontre des difficultés, bien sûr.
Alors, de manière assez courante, on entend de la part des équipes soignantes une difficulté parfois à contacter le psychiatre, à mettre en chambre d'isolement un petit peu avant le week-end, parce que c'est difficile. Comment ça se passe dans votre service? Est-ce qu'il y a une proximité où on peut recourir très facilement, contacter très facilement l'équipe médicale?
Ah ben, bien sûr. Ah oui, d'abord, il y a un médecin d'astreinte comme dans tous les services, mais il se déplace très facilement. D'abord, il se déplace pour aller rue Garancière, puisque quand il y a des urgences, il se présente rue Garancière, il se déplace. Mais s'il y avait un problème urgent, sur le plan de la contention, maintenant, normalement, chaque praticien du service est averti lorsqu'un patient arrive compte tenu, parce que c'est souvent dans ces moments-là que ça devient difficile. Les patients arrivent de l'extérieur, contenu. Et voilà, normalement, il faut que la contention, la loi prévoit que la contention doit être redécidée, puisqu'elle a été, la décision a été prise par un médecin extérieur au service. Donc, dans le service, normalement, le médecin qui est d'astreinte se déplace pour confirmer ou infirmer, pour infirmer la contention, normalement.
Donc, vous pratiquez la contention dans votre service ?
Exceptionnellement.
D'accord.
Exceptionnellement. D'une manière générale, un patient qui arrive contenu doit être détaché et on voit après. Surtout quand il arrive sédaté et calme.
D'accord. Ça, c'est dans la journée ?
C'est dans la journée. C'est la nuit qui a le plus de problèmes. C'est la nuit qui a le plus de problèmes. Parce que la nuit, il n'y a que deux infirmiers, c'est la nuit, ce sont des périodes angoissantes, et quand vous avez un patient qui arrive attaché, souvent précédé d'une réputation, parce qu'il faut voir ce qu'on dit au téléphone. Tout le monde s'inquiète, à juste titre, il ne s'agit pas de mettre les infirmiers en insécurité. Et donc c'est là où le médecin d'astreinte, il y a l'interne de garde qui doit venir, mais l'interne de garde ne prendra jamais la décision de lever une contention, donc c'est au praticien hospitalier du service de se déplacer pour lever la contention, lorsque, dans la plupart des cas, c'est possible.
Dans votre parcours professionnel et dans votre formation en tant que médecin, vous personnellement, est-ce qu'il y a eu des actes un petit peu fondateurs qui font qu'à un moment donné, vous avez dit, moi, dans mon équipe, dans mon service, c'est vraiment une pratique auquel je n'aurais pas recours?
Alors, oui. Mais avant ça, je voudrais vous dire que je pense qu'il faut toujours faire très attention, parce que à tenir un discours très sécuritaire, comme on l'entend bien souvent, et non plus par rapport à par rapport à la sécurité. Je vais vous faire une grande différence entre sécurité et sécuritaire. Et on tient, à mon avis, des discours sécuritaires. Et à force de tenir des discours sécuritaires, on met les équipes en insécurité. Et j'y vois là une raison pour laquelle on attache peut-être un peu plus. on met les équipes en insécurité. Et je vais vous donner un exemple. Vous parliez de mon expérience quand j'étais interne. Je vais vous raconter une histoire, c'est là-dessus que je vais même terminer. Quand j'étais interne, il y a quelques années, un chef de service a pris ses fonctions. Ce chef de service s'appelait Ginette Amado. Elle est arrivée dans le service. Elle a présenté son projet de service, création du centre d'accueil, ouverture des pavillons. Et elle a dit à la fin, est-ce que vous avez des moyens de contention? L'équipe a dit, oui, nous avons des moyens de contention. Elle a dit, apportez-les-moi. À partir de maintenant, je vais les rendre à l'administration et on n'attachera plus, on fera autrement. Pendant 10 ans, le temps où elle est restée chef de service, nous n'avons plus jamais attaché. Nous avions des patients agités, qui pouvaient être violents, excités, qui sortaient, qui rentraient. Et donc, elle est partie, a été remplacée par un autre chef de service, qui était complètement déstabilisé par le fait qu'on n'ait pas de moyens de contention. Il est arrivé avec ses collaborateurs, et il a tenu un discours dont j'ai été témoin et qui était, attention, à partir de maintenant vous allez recevoir des patients pleins de drogue, de crack, violents, vous allez vous faire casser la figure, vous allez être, il faut des moyens de contention. Et à partir de ce moment-là, on a réintroduit les moyens de contention, on a de nouveau attaché et on a fermé le service. Alors moi je veux bien, mais il faut qu'on m'explique, les malades n'avaient pas changé, c'était les mêmes. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors moi j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que nous n'avons pas le même regard. Nous n'avons pas porté, nous ne portons pas le même regard sur la maladie, nous ne portons pas le même regard sur la façon de prendre en charge nos patients. Et ça, c'est vraiment fondamental. Voilà.
Merci beaucoup.
Eh bien, voilà un témoignage particulièrement fort, effectivement. Alors, docteur Goudal, docteur Perroni ou madame Masson, je vous laisse compléter, en quelque sorte, cette présentation. Une dizaine de minutes.
Oui, enfin, on va essayer, on va réussir sûrement. Alors, j'ai eu le privilège, en tout début de semaine, d'assister à une remarquable réunion organisée par la GHT. Ça s'intitulait « Innover dans la prise en charge des patients au long cours ». Et je dois dire qu'à un moment donné, certains qui prenaient la parole parlaient de bottes secrètes ou de boîtes à outils spécifiques qui permettaient à chacun d'apporter une réponse la plus efficace possible à la prise en charge des patients au long cours. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, à propos de la contention et de l'isolement thérapeutique, nous n'avons pas ni de bottes secrètes, ni de boîtes à outils particulières. Dans tous les cas, on est tout à fait favorable à partager, évidemment, notre pratique avec tout le monde, et en l'occurrence, même si c'est un sujet qui peut s'avérer difficile à aborder, particulièrement sensible, Jean-Luc Marcel parle même de sujets polémiques, moi je rajouterais parfois passionnels, je pense qu'on doit pouvoir en effet aborder cette question. Il a fallu peut-être que le législateur se manifeste pour de redonner de l'énergie à cette discussion, mais il me semble quand même que si nous n'avions pas beaucoup rédigé d'articles sur la contention et l'isolement thérapeutique il y a quelques années, nous étions quand même confrontés à cette pratique et nous nous posions des questions essentielles autour de ce sujet de la contention et de l'isolement thérapeutique. Je voudrais dire une chose, c'est que l'exemple, en l'occurrence, le facteur humain, avec l'exemple de ce qui peut arriver dans l'histoire d'un service, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, bien sûr, et d'ailleurs, je suis responsable du centre d'accueil et de crise Ginette Amado, et donc c'est tout à fait, pour moi, un honneur d'être dans cette structure. Mais en l'occurrence, quand l'on parle du recours à l'isolement thérapeutique et à la contention comme étant un dernier recours, et de la même façon, le facteur humain va faire qu'il n'y aura pas le même dernier recours pour chacun. C'est ça qui est quand même tout à fait particulier. Et lorsque on nous signifie qu'il faut justifier de toutes les pratiques, qu'elles soient psychologiques, médicamenteuses, adaptées, et que c'est devant l'échec de ces efforts que nous recourons à la contention et ou à l'isolement thérapeutique, on est là, manifestement, avec des réponses très différentes d'un service à l'autre. Et alors, chose quand même assez remarquable, dans le même service d'un individu à l'autre. Et je pourrais même, si vous permettez, dire que le même individu, ce qui peut paraître quand même un peu étrange, mais le même praticien peut, à certains moments, éviter la contention et la décision d'un isolement, et ce même praticien dans un autre moment de sa vie de praticien pourrait accepter l'idée d'un isolement thérapeutique ou d'une contention. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, ça renvoie à chacun à son histoire personnelle. Pour ce qui est de Ginette Amado, pour vous dire rapidement les choses, je crois qu'elle avait connu des camps de concentration. Sa famille avait été en partie décimée par l'univers concentrationnaire et ça lui paraissait absolument insupportable lorsque elle était devenue médecin et psychiatre que quelque chose ressemble à l'univers concentrationnaire. Donc la concentration de patients, quelque part, ça lui était absolument insupportable. L'hospitalisation, pour elle, était une mauvaise... Disons qu'il s'agissait d'essayer de trouver une alternative à l'hospitalisation. Et évidemment, pour ce qui était de la contention, c'était impensable. Et elle a retiré d'emblée, comme le dit le docteur Marcel, tout matériel dans le sens de la contention. Alors je dois dire que quand on n'a pas le matériel pour attacher, et quand on ne pense pas à l'isolement ou à la contention, il nous faut faire autrement. C'est penser autrement les soins. Si on nous disait vous ne pouvez plus recourir à la contention et à l'isolement thérapeutique, je suis persuadé que nous trouverions tous des moyens de faire autrement. L'existence même de la contention et de l'isolement thérapeutique, ça permet son utilisation. Bon, mais encore une fois, il s'agit probablement de penser les choses un peu autrement. Et moi, je suggère d'essayer de penser ce problème en affirmant qu'on pourrait se passer de l'un comme de l'autre.
Madame Masson, votre témoignage en tant que cadre de pôle.
Oui, moi je voulais rajouter qu'en effet, c'est un travail aussi très important pour l'encadrement aussi. C'est un travail pédagogique très important, je veux dire quasiment quotidien aussi, et qui commence aussi auprès dès l'accueil des étudiants infirmiers aussi, pour expliquer une organisation de soins, pour expliquer une pratique. Et puis au niveau du recrutement, bien évidemment, d'essayer de bien expliquer, en effet, quand on recrute une personne, si un infirmier, s'il se sent, enfin, en expliquant notre organisation, notre conception des soins, que la personne déjà soit bien imprégnée de la manière dont on travaille, qu'est-ce que ça peut lui évoquer, hein, si elle se sent en mesure d'intégrer un service avec une telle organisation. Et ensuite, auprès des équipes, en effet, dès qu'il y a une situation un petit peu complexe, un petit peu difficile, une prise en charge particulière, donc c'est d'être vraiment auprès des équipes, hein, l'équipe dans que ce soit les cadres de proximité, moi-même et les médecins, le docteur Marcel, c'est en effet de reprendre chaque situation, chaque difficulté, alors que ce soit, ça peut être en petite équipe, selon la situation, et puis parfois c'est aussi en grande équipe, avec nos réunions régulières, en effet, on a des réunions de secteur aussi, pluridisciplinaires, donc qui permettent aussi de débattre et de reprendre les choses, et je pense qu'en effet, sous ce rôle pédagogique et d'être très... très attentionné, très, en effet très, très vigilant quotidiennement auprès des équipes pour pouvoir faire en sorte que cette organisation et cette conception des soins se maintiennent.
Docteur Perroni, vous êtes en intra-hospitalier, puisque le centre Ginette Amado est effectivement à l'extérieur. Évidemment, j'imagine que vous n'avez pas tout à fait les mêmes pratiques en permanence, quoi.
Alors, on essaie dans la mesure du possible d'avoir les mêmes, mais effectivement, par définition... on reçoit peut-être les patients les plus agités ou les plus problématiques, puisqu'ils sont réorientés à l'hôpital quand ça, on va dire, quand ça tient pas au centre d'accueil et de crise. Après, je dirais qu'on est, on a exactement la même idéologie. Et moi, en écoutant le témoignage du docteur Marcel, je dirais que effectivement, je pense que le facteur humain est extrêmement important dans le sens où moi, en tant que médecin de l'unité, je sais qu'il est, je dirais presque interdit d'attacher. Et d'isoler, bon, isoler, je fais quand même un différentiel entre les deux, mais voilà, il est interdit pour nous de le faire, sauf vraiment cas de force majeure, et on le fait quand même, hein, faut pas non plus être, mais je pense que ça joue énormément de travailler avec l'idée que ça ne doit pas être un outil, que ça l'est quand on a vraiment plus d'autre choix, mais que c'est pas une évidence, dès que le patient est agité, on l'attache, chez nous, c'est impensable comme ça. Voilà.
Un détail juste pratique, le service donc Amado est extérieur, il est où physiquement?
Si vous parlez du centre d'accueil,
oui, le centre d'accueil,
le centre d'accueil du Ginette Amado est situé rue Garancière au 17, dans le 6e arrondissement.
C'est ça, voilà. Donc, certaines distances.
Je voudrais rajouter quelque chose, le docteur Marcel a évoqué cette idée d'accueil, de rencontre. Et ce qu'on a aussi peut-être un petit peu, en tout cas pour nous, d'un peu spécifique, c'est qu'en fait, on n'a pas de procédure ou de protocole d'admission pour les patients, que le patient soit donc en SPL, sous contrainte ou en SPDRE. En fait, il n'y a pas de protocole d'admission. Je veux parler, par exemple, de mise en pyjama ou de certaines consignes. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une prise en charge individualisée, en effet. Et donc, il n'y a pas de ce type de procédure ou de protocole pour les patients.